Imaginons un instant une situation que beaucoup connaissent. On entre dans une salle de réunion, on a préparé ses arguments, on connaît son dossier sur le bout des doigts.
Ouais, on est prêt, quoi.
Exactement, on est prêt. Et pourtant, au moment d'ouvrir la bouche, la voix perche.
Ah oui, le classique.
Elle tremble, elle se brise, elle devient soudainement étrangère, comme si quelqu'un d'autre parlait à notre place.
C'est un sentiment terrible, en fait.
Absolument terrible. Et on se dit souvent que c'est une fatalité. Parce que la plupart des gens considèrent la voix comme un simple outil, un peu utilitaire, un mécanisme automatique.
Un peu comme une imprimante, hein.
C'est ça. On a une idée en tête, on produit un bruit, et pouf, l'information est transmise. Mais les documents que nous explorons en profondeur aujourd'hui bouleversent complètement cette vision binaire.
Complètement. Cette illusion de la voix comme un simple bruit de fond de la communication, c'est rassurant. Ça évite de regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps.
C'est clair, et je suis ravi qu'on plonge là-dedans aujourd'hui.
Moi aussi, je suis ravie, parce que l'exploration de notre documentation issue du site Vocalize, ça nous plonge au cœur de la pédagogie développée par Valentina Vagliani.
Une pédagogie fascinante pour le coup.
Vraiment. Le postulat central est que la voix n'est pas un simple vecteur d'information, c'est un geste éminemment physique, profondément émotionnel et surtout le reflet le plus exact de l'identité d'un individu.
Et ça, c'est un changement de paradigme massif.
Oh que oui.
Et pour comprendre cette approche, il faut vraiment décortiquer ses fondements, voir en quoi cette méthodologie prend à contre-pied des siècles d'enseignement classique.
Tout à fait.
Et surtout, on va découvrir pourquoi ce travail vocal concerne absolument tout le monde, de la scène de théâtre à l'espace de coworking en open space.
Et c'est ça qui est le plus surprenant.
Alors commençons par la matière première. Dans les textes, il y a cette phrase qui frappe d'emblée. Je cite, « La voix est un acte de création de l'homme, un geste à parfaire, à façonner. »
Une phrase très forte, oui.
Très forte, mais physiologiquement parlant, la voix s'est déterminée par la génétique, non ? La taille des cordes vocales, la forme du crâne. En quoi c'est un acte de création ?
Eh bien, en fait, la génétique fournit l'instrument, certes, mais elle ne détermine en rien la façon dont l'individu va en jouer.
D'accord, je vois l'idée.
Parler d'un geste à parfaire, c'est replacer la voix dans le domaine du mouvement. C'est de l'artisanat, presque. L'approche de Valentina Vagliani repose sur l'appropriation simultanée des outils physiologiques et émotionnels.
Parce qu'on a souvent tendance à les opposer, non?
Exactement. L'erreur commune, c'est de croire que l'émotion et la technique s'opposent, alors qu'au contraire, la technique vocale est ce qui permet, selon les sources, de canaliser son émotion et affirmer son caractère.
C'est-à-dire que sans technique, l'émotion prend le dessus.
C'est ça. Sans technique, l'émotion brute, comme le stress ou la colère, ça déclenche une réponse archaïque de survie.
Ah, la fameuse réaction de lutte ou de fuite?
Absolument, le même mécanisme. Le cerveau perçoit une menace, et ça peut être un lion dans la savane ou juste un public hostile dans une salle de conférence. Hein.
Le savant, c'est ta référence, quoi.
Pas du tout. Immédiatement, la respiration se bloque. Elle devient super superficielle. Elle se limite au haut de la poitrine.
On est le souffle court.
Voilà. Le larynx, qui abrite les cordes vocales, se crispe pour protéger les voies respiratoires. Les muscles du cou se tendent. Et essayer de parler dans ces conditions...
C'est mission impossible.
C'est exiger d'un mécanisme sous haute tension de produire un son fluide. C'est physiquement impossible.
En fait, c'est un peu comme essayer de jouer une mélodie sur une guitare tout en gardant le poing serré sur le manche.
C'est une excellente analogie.
Les cordes sont en parfait état, la caisse de résonance est là, mais la tension musculaire étouffe complètement la vibration.
Et la pédagogie de Valentina Vagliani nous dit que la technique sert à desserrer ce poing. C'est tout à fait ça. En s'appropriant les outils physiologiques, comme l'ancrage corporel, la gestion du souffle par le diaphragme, on crée un contenant solide.
Un contenant qui absorbe le choc émotionnel.
Exactement. L'émotion ne détruit plus le son en verrouillant la gorge. Elle est portée par une respiration basse et stable. En fait, elle nourrit le timbre de la voix au lieu de le saboter.
C'est fascinant.
Et c'est cette libération physique qui permet d'arriver à l'affirmation fondatrice de cette approche, la phrase « ma voix, c'est moi ».
Alors justement, cette affirmation, elle soulève une vraie question identitaire. « Ma voix, c'est moi », d'accord, mais de quelle voix on parle?
Comment ça?
Celle du matin quand on est fatigué, celle qu'on prend au téléphone, vous savez, un peu aiguë avec un client. Si notre voix est malléable, comment on sait laquelle est la vraie?
Ah, je comprends. Mais... Maîtriser sa voix dans la pédagogie de Valentina Vagliani, ça ne signifie en aucun cas fabriquer une voix artificielle.
Donc on ne fait pas du mimétisme.
Surtout pas. Le but n'est pas de formater les gens pour qu'ils parlent tous comme, je sais pas, des orateurs politiques ou des présentateurs télé, quoi.
Heureusement.
Le terme clé, c'est la révélation. L'objectif, c'est d'enlever les couches successives de tensions musculaires, les habitudes d'élocution défensive, les blocages respiratoires.
Pour trouver ce qu'il y a en dessous.
C'est ça. Pour laisser émerger la sonorité propre à l'individu. C'est vraiment un travail de libération de l'identité par le son.
Mais du coup, ça amène un point de friction majeur. Si le but, c'est de révéler la véritable identité vocale parlée d'une personne au quotidien, pourquoi la pédagogie de Valentina Valiani l'emmène-t-elle sur le terrain du chant ?
Ah, c'est la grande question.
Bah oui, parce qu'historiquement, ce sont des mondes qui ne se croisent jamais, la parole et le chant.
La séparation traditionnelle est effectivement très marquée, ouais. D'un côté, on a la sphère paramédicale avec l'orthophonie.
Qui gère la rééducation, les pathologies.
Voilà, l'articulation mécanique. Et de l'autre côté, on a les institutions comme les conservatoires de musique dédiés au chant, à l'esthétique pure, au solfège.
À la performance artistique, quoi.
Exactement. Et la parole quotidienne et le chant sont traités comme deux espèces totalement différentes, étudiées dans des buts radicalement opposés.
Ce qui semble logique à première vue. Imaginons un cadre dirigeant ou une avocate qui cherche simplement à être percutante lors d'une plaidoirie.
Ouais.
L'objectif est purement l'efficacité professionnelle. Entrer dans une approche sur mesure de la parole au chant, comme le mentionnent les documents de vocalise, ça semble contre-intuitif.
Ça peut paraître étrange, oui.
Pourquoi passer par les mécaniques du chant quand on n'a absolument aucune intention de produire de la musique ?
Eh bien, la contradiction n'est qu'apparente. Parce que l'analyse physiologique prouve que l'instrument est unique.
C'est la même machine.
Voilà. Qu'un individu articule un chiffre d'affaires en réunion ou qu'il chante un air d'opéra, il utilise la même soufflerie pulmonaire, le même muscle diaphragmatique pour gérer l'air, les mêmes cordes vocales.
Et les mêmes résonateurs.
Justement. Arrêtons-nous sur ces résonateurs un instant, parce que c'est un concept technique souvent un peu flou pour les gens.
Oui, c'est vrai.
On parle de quoi concrètement ? Concrètement, les résonateurs, ce sont toutes les cavités osseuses et tissulaires situées au-dessus des cordes vocales.
Donc la bouche, le nez...
La gorge, la bouche, les fosses nasales, mais aussi par extension, les os de la face et du crâne.
Ah oui, carrément les os du crâne.
Absolument. La vibration initiale produite par les cordes vocales, en fait, elle est toute petite, elle est presque inaudible.
Vraiment ?
Oui, et ce sont ces cavités qui agissent comme la caisse de résonance de notre fameuse guitare de tout à l'heure. Elles amplifient le son et lui donnent son timbre unique, sa couleur.
D'accord, mais si l'instrument est le même, pourquoi la parole quotidienne ne suffit-elle pas à l'entraîner ? Pourquoi le passage par le chant est vraiment incontournable dans l'approche de Valentina Valiani ?
Parce que la parole quotidienne est un acte totalement machinal.
On n'y pense pas.
Jamais. On ne réfléchit jamais à la hauteur de la note ou à la durée de l'expiration quand on demande son chemin dans la rue. Hein. Le chant, en revanche, ça pousse le mécanisme à une exigence supérieure.
C'est une sorte de gymnastique plus intense.
Exactement. Ça oblige à soutenir le son plus longtemps sur des voyelles étirées, à explorer des tonalités plus aiguës ou plus graves que d'habitude. Ça mobilise tout le tonus musculaire.
Je vois.
Les textes soulignent que entendre et ressentir sa voix parler, ça demande une conscience corporelle extrême. Se mettre à chanter oblige l'individu à découvrir ses propres capacités d'une manière que la simple élocution ne permet pas du tout.
En somme, on pousse le système vocal dans ses retranchements à travers la mélodie pour que le retour à la simple parole paraisse infiniment plus facile.
C'est un très bon résumé.
C'est un peu l'équivalent du fitness fonctionnel pour la communication, quoi. On ne va pas à la salle de sport pour faire des concours d'haltérophilie, on y va pour pouvoir soulever des objets lourds au quotidien sans se briser le dos.
L'image est parfaite.
Ici, le cadre dirigeant chante en atelier pour pouvoir porter l'attention d'une salle entière sans forcer sur sa gorge.
Et le parallèle est d'autant plus pertinent que cette musculation vocale transforme littéralement la manière dont on parle.
Ça change la texture de la voix.
Complètement. En goûtant aux exigences du chant, l'individu développe une musculature de soutien et une connexion émotionnelle vraiment inédite. Les sources l'indiquent très clairement. Chanter demande de ressentir et aimer ce que l'on dit, la tonalité dans laquelle on chante et l'émotion provoquée.
Et on ramène ça dans la vraie vie ensuite.
Voilà. Lorsqu'on réinjecte cette sensation de vibration corporelle dans la parole de tous les jours, bah la voix devient plus riche, plus timbrée. Elle capte l'attention parce qu'elle est physiquement plus présente.
Alors justement, cette notion de présence, elle revient sans cesse dans nos sources.
Tout le temps.
Les prestations décrites par le site ont des finalités très terre-à-terre. C'est pour convaincre, parler en public ou jouer la comédie. Il est question d'attirer l'attention, d'acquérir de l'assurance. Et le monde de l'entreprise raffole du terme « présence ».
Oh oui, le fameux charisme.
Souvent décrit comme un truc inné d'ailleurs. Un don du ciel.
Et c'est là que la pédagogie de Valentina Vaglioni déconstruit ce mythe du don. La présence s'explique par la physique et la physiologie.
C'est pas magique en fait.
Dont la voix résonne pleinement dans l'espace, sans entrave. Le confort vocal libère une charge mentale énorme.
Parce qu'on n'est plus en train de surveiller sa voix.
C'est ça. Quand on ne subit plus les caprices de sa propre voix, quand on sait que le son va sortir de manière claire et puissante sans s'étrangler, l'esprit est totalement disponible. On peut se concentrer sur l'auditoire et sur le message.
Ce qui offre une perspective entièrement nouvelle sur la maîtrise du trac. Parce que le trac, ça paralyse le corps. On nous dit souvent de respirer un grand coup ou d'imaginer le public nu.
Ce qui ne marche absolument jamais, on est d'accord ?
Jamais !
Ça ne fait qu'ajouter de l'angoisse. Mais la technique vocale, elle, propose une réponse mécanique à un problème mécanique. Exactement. Le trac crée une boucle de rétroaction négative. Le cerveau panique, le souffle se coupe, la voix s'altère, le cerveau entend cette voix altérée.
Et il panique encore plus.
Voilà, c'est le cercle vicieux. En donnant des points d'ancrage physiques précis, comme le placement du bassin, le relâchement de la mâchoire, l'engagement du diaphragme, la technique permet de court-circuiter cette boucle.
On reprend le contrôle de la machine.
C'est pour cela que la documentation insiste sur la finalité ultime de ce travail. Le bien-être physique et psychique. Une voix bloquée génère de la frustration.
De l'impuissance même.
Oui, alors qu'une voix libérée, qui répond à la volonté de la personne, ça engendre ce que les textes appellent une sensation de plénitude.
Et cette sensation de plénitude individuelle, en fait, ce n'est que la première étape. L'exploration devient encore plus complexe quand on introduit les autres.
Ah, la dimension collective !
L'individu, aussi ancré soit-il, ne vit pas dans un bocal. Il doit confronter sa voix fraîchement découverte à celle de son entourage. Et c'est là qu'on touche à une application étonnante détaillée dans Les Sorcielles, les ateliers de polyphonie en entreprise.
Très surprenante, prime abord.
Mais carrément. L'idée même d'une équipe de comptables ou de commerciaux qui se retrouvent pour chanter en chœur à plusieurs voix, ça ressemble à première vue à un exercice de team building un peu farfelu, non ?
C'est vrai que ça peut prêter à sourire.
Quel est le mécanisme psychologique derrière ça ?
Eh bien, il faut regarder au-delà de l'acte musical pour comprendre la philosophie de Valentina Vagliani. Le travail collectif en entreprise souffre souvent de deux extrêmes pathologiques lors des réunions.
Lesquels ?
Soit certains individus effacent leur propre voix, par manque de confiance ou par peur du conflit, ce qui crée un déficit d'idées. Soit, à l'inverse, d'autres monopolisent l'espace sonore.
Ah oui, ils parlent plus fort et ils écrasent les nuances des autres.
Exactement.
Les effacer et les écraseurs, c'est la dynamique classique de n'importe quel bureau en open space, quoi.
Tout à fait.
Mais en quoi chanter en chœur résout-il ce problème de management ?
La définition de la polyphonie dans les textes de vocalise est très éclairante là-dessus. C'est, je cite, « faire entendre sa voix et écouter celle des autres pour rechercher l'harmonie ».
C'est de l'assertivité, en fait ?
C'est l'exercice de l'assertivité poussé à son paroxysme physique. L'assertivité, c'est pas l'agressivité, c'est la capacité à prendre sa place de manière ferme et respectueuse.
Et dans un chœur, comment ça se traduit ?
Dans un chœur polyphonique, si un groupe chante trop fort, il détruit l'accord. Mais si quelqu'un s'arrête de chanter pour écouter son voisin, sa propre note disparaît et l'accord est tout aussi détruit.
Waouh ! L'exercice oblige donc physiquement la personne à maintenir sa propre fréquence, son propre son de manière inébranlable, tout en gardant une oreille grande ouverte pour s'assurer qu'il fusionne avec les autres.
C'est la métaphore absolue de la négociation réussie.
C'est brillant. Et c'est une métaphore incarnée, pour le coup. On ne se contente pas d'intellectualiser la notion de respect devant un tableau blanc avec des post-it.
Non, on l'expérimente avec ses cordes vocales et ses tympans. On apprend physiquement à exister dans la masse sans s'y diluer et sans la dominer.
C'est un entraînement intensif aux compétences comportementales, en fait.
Qui facilite grandement le travail en groupe et c'est un objectif explicitement visé par l'approche de Valentina Vagliani en milieu professionnel.
Un autre bénéfice mentionné, qui résonnera, je pense, chez beaucoup de monde, ça concerne l'usure quotidienne, ménager sa voix.
Ah oui, la fatigue vocale.
Le monde du travail moderne est hyper bruyant. Les espaces ouverts forcent à élever la voix constamment. À la fin de la semaine, beaucoup ressentent une irritation de la gorge, comme si leur capital vocal était épuisé.
Et cette fatigue, elle vient d'un effort très mal placé. Quand on cherche à se faire entendre au-dessus du brouhaha, sans technique, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente la pression de l'air directement sur les cordes vocales.
Ça force sur le mécanisme.
Ça crée une friction violente, oui. En cultivant cette assertivité vocale par la pédagogie de Valentina Vagliani, la personne apprend l'économie de l'effort.
On parle moins fort, mais on porte plus loin, hein ?
Exactement. On obtient plus d'impact dans le son en utilisant mieux ces fameux résonateurs plutôt qu'en forçant musculairement. C'est une stratégie de préservation indispensable aujourd'hui.
Donc en synthétisant l'ensemble des éléments de notre analyse, la dimension superficielle de la voix disparaît totalement.
Elle vole en éclats.
L'approche de Valentina Vagliani ne consiste pas simplement à enseigner comment produire de jolies notes ou éviter de bafouiller. C'est un travail de réunification massif.
C'est le mot juste, réunification.
Elle reconnecte le geste physiologique à la charge émotionnelle, elle efface cette frontière artificielle entre la parole usuelle et l'art du chant. Et elle articule l'affirmation de soi avec l'écoute nécessaire du groupe.
Cette pédagogie redonne au fait de parler sa dimension d'acte conscient. Façonner sa voix avec les bons outils, c'est littéralement façonner la manière dont on choisit de se présenter au monde, avec ses nuances, sa force et sa vulnérabilité.
Ce qui laisse une dernière réflexion, un point d'interrogation pour clore cette exploration.
Allez-y.
Si notre voix, c'est nous, si elle est ce geste malléable qui traduit l'alignement ou le conflit entre notre corps et nos émotions, que révèle inconsciemment notre propre voix par défaut, celle que l'on utilise tous les jours de manière automatique, sans jamais y prêter attention?
C'est une question vertigineuse.
Est-elle le reflet d'une tension accumulée ou la véritable expression de notre état intérieur face au monde? C'est une matière à réflexion qui résonnera longtemps après que le silence soit retombé.
Absolument.
Eh bien, merci pour cette analyse profonde.
Merci de l'avoir partagée avec moi.